Rockkick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Israël Trépanier.
Wacha!
8 à 12, 14 à 18.
The Punisher.
Chris the Sport Mizan.
Il est présentement 11h07 minutes au bout du fil. Monsieur Reichmann, comment allez-vous?
Merci beaucoup, très bien. Et vous-même?
Ben oui, ça va super. On explose ici, là, justement, avec les accommodements raisonnables. Vous savez qu'on pourra, le 26 mars, de notre côté, car c'est les élections, bien sûr, provinciales.
Oui.
On pourra dorénavant, car dans la loi concernant le vote, on peut se présenter masqué sans problème, mais en étant toujours en mesure de présenter des pièces d'identification, bien entendu.
Masqué, vous voulez parler du voile islamique, je suppose.
Tout à fait, la burqa, oui.
D'accord, la burqa, oui.
C'est super ça.
Vous savez que ça a été interdit en Italie pour une raison qui est assez intéressante, notamment pour les pays qui se prévalent quand même de mesures de sécurité.
Okay.
C'est que dans la rue, il y a un certain nombre de caméras de surveillance et que les gens qui sont dissimulés par un voile peuvent échapper ainsi à toute procédure de reconnaissance. Et l'Italie a interdit le voile à ce motif, dans la rue. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que au Canada, où vous avez quand même un certain nombre de mesures de sécurité, vous ne vous soyez pas prévalu également de cet argument.
Et vous savez quoi? On a décidé, nous, notre équipe de Rockkick.com, la station radio Rockkick.com, on va aller dans chacune de nos circonscriptions, Monsieur Reichmann, et nous irons voter masqué.
Vous serez masqué avec le masque de Zorro, peut-être, non?
J'avais un faible, effectivement, M. Reichmann, pour...
ce serait amusant. En tout cas, il serait intéressant de voir si vous serez accepté en tant que Zorro, à côté de personnes qui auront la burqa.
Parce que, exactement, parce qu'ils expliquaient aussi que tout le monde qui... désire voter, mais de manière masquée, par exemple. On peut pas demander à quelqu'un qui a un bandage autour de la tête de l'enlever.
Oui.
On peut pas, par exemple, pour une femme qui porte la burqa, on peut pas lui demander de s'identifier en levant son voile. On a juste besoin d'avoir des pièces d'identification. Alors ça, ce n'est pas un problème. Alors, n'importe qui pourrait arriver, par exemple, avec un masque de Dark Vador,
oui.
Un sac de papier sur la tête, je vous le jure, hein, c'est très sérieux. Tout le monde peut arriver masqué le jour.
Je vous suggère d'acheter un masque de Chirac, par exemple, et d'arriver en disant je n'ai plus rien à faire en France, désormais je me présente au Canada, je vais peser sur l'élection canadienne.
Ah oui, j'aime ça. Ça serait vraiment un bon coup, ça.
Oui.
Définitif.
Et si jamais vous êtes interdit avec un masque de Chirac, c'est un incident diplomatique.
Ah ben tout.
Ouais. On rencontre la gravité. Et vous savez que nous avons l'arme nucléaire, donc faites très attention.
Oh, vous aviez combien déjà de sous-marins, la nucléaire, sur Reichmann?
Ah oui, il y en a 10, ça je sais. Oui. C'est la grande question qui est posée. On a commencé par Madame Royal qui, à sa connaissance, en avait décelé un. Vous imaginez quand une femme comme ça va se trouver, si elle est élue, avec la mallette nucléaire. Tiens, je vais balancer une petite fusée. On a bien un sous-marin par là. Allez, hop.
je suis complètement... ça me surprend là, de voir que Madame Royal ne soit pas au courant.
Oui, mais M. Sarkozy n'était pas trop non plus. Et finalement, on peut se demander si vraiment les sous-marins ne sont pas trop sous-marins. Ils se sont dissimulés au point que personne ne les voit. C'est un peu ça le problème.
C'est peut-être possible, effectivement. Alors, c'est une bonne nouvelle, M. Reichmann. On progresse dans le bon sens. Nous pourrons voter le 26 mars, masqué, sans problème. Déjà, mon collègue Christian Dallaire, qui est animateur sportif, lui, il va se présenter avec le personnage d'un film d'horreur nommé Michael Myers. C'est un masque blanc, bref, qui fait peur. Alors, c'est ça, on va se présenter. On va filmer l'événement aussi, soit dit en passant. On va filmer.
Très bien, ouais. Des vidéos très sympathiques à voir.
Tout à fait.
Ça va mettre un petit peu d'animation dans les élections.
Voilà, et nous allons le diffuser, bien sûr, sur le www.rocklick.com, cette vidéo. Alors, vous pourrez peut-être en avant-première la voir sans problème.
Avec grand plaisir.
Monsieur Reichmann, là, il va falloir qu'on se dise les vraies choses, monsieur.
Oui.
Oui, définitif. Là, vous avez appuyé le FN.
Oui. Je n'ai pas appuyé le FN, le Front National. Donc, je suis allé à Lyon, effectivement, parce que, à la demande de Jean-Marie Le Pen, car Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique français à avoir dit la vérité sur la fin du monopole de la sécurité sociale. Et donc, je suis allé à Lyon au titre de président du Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale, pour remercier le président du Front National d'avoir eu le courage de dire la vérité aux Français. Et il est le seul. C'est ça qui est absolument terrifiant. Nous vivons dans un pays où il est impossible de faire passer un certain nombre de vérités. Donc voilà, je suis tout à fait libre vis-à-vis du Front National comme vis-à-vis des autres partis politiques. Mais je reconnais avec lucidité que lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de problèmes, eh bien, seul le Front National les a révélés à l'opinion. Pour prendre un autre exemple qui est tout aussi important, c'est celui de l'immigration. Pendant des années et des années, Le Pen a été le seul à dire qu'il y avait une immigration qui devenait infiniment trop importante en France, jusqu'à ce que maintenant tout le monde en soit arrivé à admettre qu'en effet l'immigration est devenue un énorme problème. Et nous avons eu le mérite, par nos écrits et par nos émissions de radio, de révéler au public le nombre exact de l'immigration. Nous nous sommes appuyés sur les travaux d'un haut fonctionnaire qui s'appelle Maxime Tandonnet, et qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, et qui a été le conseiller au ministère de l'Intérieur de M. Sarkozy pour sa loi sur l'immigration de l'été 2006. Et M. Tandonnet a révélé, et il l'a encore redit dans un article du Figaro d'il y a quelques jours, qu'il y a environ 350 000 personnes chaque année qui immigrent en France, sans compter les enfants et sans compter les clandestins. Alors vous imaginez, si vous ajoutez cela, ça fait à peu près 400 à 450 000 personnes chaque année, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'une ville comme Lyon, qui s'ajoute à la France. C'est la raison pour laquelle, année après année, le chiffre de l'immigration n'a pas cessé d'augmenter, et donc le nombre d'immigrés aussi. Et aujourd'hui, quel que soit le jugement qu'on porte sur les bienfaits ou sur les méfaits de l'immigration, on est obligé de constater que les problèmes n'ont jamais été posés et donc n'ont jamais été résolus. Il y a environ 10 millions de personnes qui sont issues d'immigration en France. Bon, la plupart d'entre elles viennent paisiblement, mais il n'empêche que les gros problèmes qui se posent actuellement et qui se sont posés dans les banlieues et qui vont maintenant déborder partout et non pas seulement dans les banlieues, ce sont des problèmes qui, pour la plupart, ressortissent à l'excès d'immigration. Donc le Front National, de ce point de vue-là, a eu le mérite de dire les choses. L'inconvénient, évidemment, des positions de Jean-Marie Le Pen...
C'est là où est-ce que j'allais vous amener, Jean-Marie Le Pen, c'est pas un enfant de cœur, là.
Ça n'est pas un enfant de cœur. D'abord, c'est un homme politique depuis très longtemps. Vous savez qu'il a été élu à l'âge de 28 ans, je crois, en 1956 pour la première fois, dans ce que l'on a appelé la vague poujadiste, c'est-à-dire un mouvement de commerçants et d'artisans en colère qui s'était élevé contre la pression fiscale. Et donc, il est un des hommes politiques français les plus expérimentés. Mais il est vrai que son tort, et ça, on est obligé de le lui reprocher parce que c'est la vérité aussi, c'est d'avoir placé ce débat sur un terrain politique et parfois un peu glissant même sur le plan des expressions, si bien que ce qui aurait pu peut-être être un problème aurait été examiné froidement et logiquement est devenu un phénomène passionnel, et maintenant on ne sait plus par quel bout en France prendre le problème. Voilà le véritable drame français. Mais tout cela, au fond, revient à une volonté de ne pas voir les problèmes, car si on renverse le raisonnement que je viens de tenir, on peut aussi bien dire que si le gouvernement avait pris la mesure du problème et l'avait exposé honnêtement à l'opinion publique, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas eu besoin de faire des débordements.
Mais la lucidité, là, ça, ça nous a envoyé de la part d'un auditeur. La lucidité de quelqu'un, là, comme justement, là, on ne pardonne pas le manque de discernement non plus. Là.
Oui. Vous visez qui et quoi, là?
Ben, je sais pas. Je vous envoie ça comme ça, là, de la part d'un auditeur, là.
Ah, d'un auditeur?
Oui, c'est un auditeur qui vous envoie cette question-là.
Ah, d'accord, mais la lucidité, ben, écoutez, ça dépend s'il vise la lucidité à l'égard des problèmes. Ben, de ce point de vue-là, on peut considérer que l'ensemble des gouvernements français depuis maintenant plus de 30 ans n'a jamais fait preuve de la moindre lucidité. En réalité, ce n'est même pas ça le problème, parce que la lucidité, c'est évidemment une chose, mais tous ces gens savaient très bien ce qu'il en était. Mais ils ne voulaient pas, d'une part, que ce problème soit posé parce qu'il était plus facile pour eux de fermer les yeux sur une immigration qui était difficile à contenir, et d'autre part, parce qu'il y avait des groupes de pression gauchistes, notamment, qui ne cessaient de hurler au racisme, à la xénophobie, etc. Donc, moi, je pense que l'homme politique, la lucidité et la détermination sont deux éléments indissociables.
Oui, je comprends, mais c'est parce que c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a mentionné des trucs très... des propos assez... qui tombaient... Enfin, faut pas se tromper, là, c'était raciste, là.
Qui était, je n'ai pas entendu.
Jean-Marie Le Pen, il a fait des propos, il a eu des commentaires racistes, là, on ne se le cachera pas.
Il a eu des commentaires qui tombaient effectivement assez près, pourrait-on dire, de propos de caractère raciste, dont
assez près, défendu. Vous dites assez...
Enfin, je pense qu'il aurait mieux fait de ne pas les tenir, c'est absolument certain.
Exact.
Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il s'était borné à tenir ses propos d'une manière ferme, certes, mais rationnelle et raisonnable, il est vraisemblable qu'il serait au pouvoir.
Est-ce qu'il s'en est déjà excusé des propos qu'il a tenus, M. Reichmann? Est-ce que vous...
Il les a toujours minimisés.
OK.
Il a toujours dit que c'était sans grande importance, qu'il n'avait pas voulu dire cela, etc. Enfin, disons qu'un certain nombre de dérapages ont marqué l'opinion, et effectivement, un certain nombre de jeux de mots douteux, pour ne pas dire plus, on fait beaucoup de tort à la cause du Front National et à son président.
On nous dit, là, dans le fond, là, si on reprend là, l'histoire de l'immigration, M. Reichmann, puis ça, je suis d'accord avec vous à 100%. Là. Et de toute manière, le but de vous poser ces questions-là, c'est pas vous faire un procès du tout là, concernant la FN. Je veux juste savoir, c'est vos intentions, je veux savoir où est-ce que vous en allez, où est-ce que vous voulez aller avec la FN d'une certaine façon, là, OK? Rien de plus.
Oui, bien sûr. Ben, écoutez, en ce qui me concerne, nous n'avons ni programme commun, ni quoi que ce soit.
Okay.
Il s'est simplement agi de la reconnaissance que j'ai manifestée à l'égard d'un parti politique et de son président, qui, dans le combat que je mène depuis 15 ans, a osé dire sur une grande radio publique et une télévision, sur RTL et sur LCI, il y a un an et demi de cela, que le monopole de la sécurité sociale était bel et bien abrogé. Pour notre combat, c'était un élément essentiel, parce que ce dont nous souffrons, c'est du manque de médiatisation de cela. Car les Français n'ont pas le droit de savoir qu'ils sont libres de s'assurer. Je vais vous donner deux exemples qui sont tout à fait frappants. Deux journaux, le Figaro et le Quotidien du Médecin, m'ont attaqué d'une manière vraiment assez sévère, en prétendant et en s'appuyant sur de déclarations mensongères d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, en prétendant que je racontais n'importe quoi, que ça n'était pas vrai, qu'il y avait toujours un monopole de la sécurité sociale. Donc leurs écrits tombaient totalement sous le coup des lois sur la presse, de la diffamation et du droit de réponse. Donc j'ai exercé un droit de réponse en m'entourant bien entendu de toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce droit de réponse soit calibré sur les nécessités de la loi qui concerne le droit de réponse, et on me l'a refusé. Les deux journaux l'ont refusé. Alors évidemment, j'aurais pu faire un procès et j'aurais obtenu à coup sûr satisfaction, mais qui dit procès dit dépenses, et dépenses importantes, et nous avons, d'abord, nous n'avons pas assez d'argent pour multiplier les procès, et d'autre part, ce serait de l'argent un peu gâché. Mais ce que je veux retenir surtout de ces deux épisodes qui sont d'une grande gravité, c'est que quand on considère le contenu de mes droits de réponse, eh bien, c'était extrêmement simple.
Okay.
J'énonçais les lois françaises issues de la transposition de directives européennes ont supprimé le monopole de la sécurité sociale.
Uh-huh.
Donc, ce que les journaux ne veulent pas
dire,
dire, et, ou écrire plutôt, c'est qu'il y a des lois françaises. Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça représente. Des journaux qui sont quand même assez importants et qui refusent de porter à la connaissance de leurs lecteurs, fût-ce sous la signature de quelqu'un d'autre, en l'occurrence moi-même, qu'il y a des lois qui suppriment le monopole. Et à ces arguments, jamais on ne nous a répondu. On préfère nous répondre sur un terrain différent. Donc vous voyez bien, il s'agit d'une censure absolument scandaleuse. Et je dirais qu'un journal comme Le Figaro, pour ne pas parler du quotidien du médecin, ne s'est pas grandi en se comportant comme ça.
Jusqu'à maintenant, on s'aperçoit là, que du côté de l'immigration, là, c'est souvent les petits groupes de gauchistes. Là, êtes-vous capable de peut-être pointer ou de nous dire des noms, des groupes qui font non, ce n'est pas vrai ces chiffres-là concernant l'immigration. Un peu ce genre de d'individus là, qui nous foutent des épines dans le pied.
Vous savez, ce que vous venez de dire, ce n'est pas l'argument qu'ils emploient. Ça, ils ne le disent jamais.
Ah.
D'ailleurs, c'est si vrai
Okay.
Non, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que ils préfèrent placer le débat, ou l'absence de débat plutôt, sur un terrain passionnel, en disant comment vous dites qu'il y a trop d'immigrés, donc vous êtes raciste, ou bien en disant et la tradition de générosité de la France, etc., etc. Et moi, j'ai voulu rompre ce cercle vicieux en proposant, en écrivant et en proposant un certain nombre de journaux, quelques articles qui disaient ceci. Alors, admettons que le problème ne soit pas résolu, et admettons qu'il y ait des gens qui, à juste titre ou non, pensent qu'il faut plus d'immigration, et des gens qui pensent au contraire qu'il y en a trop. Mettons de côté cela, et posons simplement la question suivante. Il y a actuellement, dans le monde occidental, à peu près, et dans le monde développé, donc y compris le Japon, bon, parce qu'il n'est pas à l'Occident, mais enfin il fait partie du monde occidental, environ 1 milliard d'hommes et de femmes. Il y a sur la planète 6 milliards d'hommes et de femmes.
Voilà.
Il y a donc 5 milliards d'hommes et de femmes qui ont vocation à immigrer puisqu'ils vivent dans des pays qui sont peu développés ou sous-développés. Donc la question que j'aimerais poser aux responsables français est la suivante. Si vous estimez que l'immigration, comme vous le dites, est une chance pour la France et qu'il ne faut surtout pas la restreindre, jusqu'à combien de centaines de millions de personnes ou de milliards acceptez-vous que les gens viennent en France ? C'est la seule question qu'il faudrait poser. Et deuxième question, expliquez-moi en quoi, et je suis prêt à écouter vos arguments, en quoi l'immigration est positive, désirable, dans les circonstances actuelles, ou bien éventuellement, pourquoi elle ne l'est pas. Et à cela, on nous oppose, alors non pas du côté des gauchistes, mais du côté de Sarkozy, le concept d'immigration choisie. Alors l'immigration choisie, c'est quoi ? Ça consiste à dire, ben, nous allons choisir dans les pays sous-développés ou moins développés des professions dont on a besoin et on va les faire venir. Alors le problème, c'est que nous n'avons pas besoin en France de médecins, d'ingénieurs, un peu d'informaticiens peut-être, mais en tout cas on est capable de les former. Et donc, si vous voulez, si on fait de l'immigration choisie en privilégiant l'immigration de ces personnes, d'une part, on va en priver les pays dont ils sont issus et qui en ont besoin, et d'autre part, ces gens vont s'ajouter à l'immigration habituelle, qu'il n'est pas question, dans les déclarations de M. Sarkozy, d'interrompre. Donc vous voyez, tout ceci, c'est vraiment de la poudre aux yeux, de la fumée qui cherche à dissimuler les vrais problèmes, et on ne s'attaque jamais au seul véritable problème, qui consisterait à définir d'une part si on a encore besoin d'immigrer en France, et la question doit être posée un peu partout d'ailleurs, et deuxièmement, jusqu'à combien d'immigrés nous pouvons aller afin de les accueillir dignement.
Parce que c'est quand même un boulet là, pour la France, là, ce type d'organisation-là. Si je vous nomme le MRAP, là, par exemple, là, ça vous dit quelque chose?
Le
MRAP.
Le MRAP. Oui, c'est vous dire le mouvement pour contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Oui.
Alors, il a d'ailleurs changé de nom parce qu'au départ, il s'appelait le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, ils ont enlevé l'antisémitisme parce que c'est un mouvement qui, semble-t-il, c'est désormais entre les mains de gens issus du monde musulman pour l'essentiel. Et donc, tous ces groupes, effectivement, font beaucoup plus de bruit qu'ils n'ont de monde et d'adhérents. Mais le problème, c'est qu'ils terrorisent les hommes politiques à qui n'ont qu'une crainte, c'est de se voir qualifiés de racistes. Alors tout ceci est absolument ridicule, parce que la plupart des hommes politiques français ne sont absolument pas racistes, et d'une part, donc ils n'ont pas à craindre d'être attaqués sur ce terrain, et d'autre part, ils peuvent parfaitement renverser le débat en disant à ces groupes, en leur posant posant les questions que je viens d'énoncer.
Ben, je vous donnerai un exemple. Là. Il y a un de nos politiciens ici qui s'est fait accuser de racisme parce qu'il avait dit que les gens aux yeux bridés trouvaient que les gens aux yeux bridés étaient fort intelligents. Et une minorité asiatique ici est sortie déchirer leur chemise sur la place publique et on fait savoir que les yeux bridés étaient racistes.
Étaient racistes?
Oui.
Oh, mais qui a dit ça?
Il s'appelle André Boisclair, c'est le chef du Parti québécois. Il a dit
ça. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai entendu parler de lui. Ben, je ne vois pas en quoi le fait de dire que des gens sont intelligents est un signe de racisme. Je ne vois pas très bien l'accusation dont on...
Ben, l'accusation est la suivante. C'est parce qu'il a dit qu'il trouvait que les gens aux yeux bridés, étaient fort intelligents. Et eux, ils ont pris le mot, les gens aux yeux bridés, ils ont trouvé ça raciste.
Ben, écoutez, à ce stade-là, ça devient délirant, parce que c'est complètement stupide. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un film, si vous l'avez peut-être vu, d'ailleurs, un film que jouait le comique français Louis de Funès.
Oui.
Vous avez peut-être vu des films. Et il jouait, c'était d'ailleurs un film qui était issu d'une pièce, je crois que ça s'appelait Oscar. Et donc, il jouait, comme souvent, un personnage de grand bourgeois, irascible.
Oui.
De mauvaise humeur, etc. Et à un moment, il avait un maître d'hôtel qui était noir. Et alors, il engueule son maître d'hôtel à un moment, et le gars lui dit, vous m'engueulez parce que je ne suis qu'un maître d'hôtel. Mais non, vous m'engueulez parce que ceci, vous êtes raciste. Il dit, mais non, je ne suis pas raciste. Vous m'engueulez parce que je suis noir. Mais non, vous n'êtes pas noir.
Non, j'ai toujours aimé Louis de Funès, sincèrement.
Voilà. Donc, si vous voulez, à ce stade-là, bon, moi, je serai ceux qu'on accuse, enfin, que les personnes asiatiques accusent de racisme, je leur ferai une déclaration solennelle en disant que je me suis trompé, vous n'avez pas les yeux bridés, voilà, c'est tout.
Oui, exactement.
Ce serait beaucoup plus simple, et finalement, ça les traiterait par la dérision et par l'humour.
C'est entre vous et moi, c'est vraiment n'importe quoi, là.
Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est ça le problème. Vous savez, les gens qui essayent de monter ce genre d'opération sont des gens dont l'objectif véritable consiste précisément à opposer les communautés entre elles. Alors, il est absolument indispensable pour elles de démontrer que telle ou telle personne est raciste ou tel groupe politique, et pour ça, ils utilisent les moyens les plus absurdes et les plus ridicules. Mais c'est une tactique délibérée. C'est une tactique, finalement, qui vise à la destruction de la société en y semant les ferments de la haine.
Oui, c'est ça, on stigmatise.
Et on accuse les autres d'avoir de la haine.
Exactement. Pourtant, le Canada et l'Australie, depuis 30 ans exactement, là, M. Reichmann, ils la font quand même d'une certaine façon, la sélection des gens qui entrent à l'intérieur. Quoique, on est réputé, nous, au Canada, pour faire entrer un paquet de terroristes. Ça a l'air que c'est la passoire à terroristes, c'est le Canada. Je comprends pas.
Vous avez quand même des procédures qui vise à un certain contrôle de l'immigration. Alors qu'en France, il n'y a aucune procédure. Il y a en particulier ce système des visas,
aucune
qui
procédure.
Est absolument invraisemblable, qui permet à des gens d'arriver avec un visa de tourisme, puis de disparaître dans la nature, et une fois qu'ils sont sur place, eh bien, ils y restent, et ensuite ils se font régulariser. Et donc, c'est comme ça que énormément de gens sont entrés en France, alors qu'on nous disait officiellement, mais non, il n'y a pas plus d'immigrés. D'ailleurs, regardez les statistiques. Le problème des statistiques, c'est que les gens qui sont naturalisés d'une manière ou d'une autre ne comptent plus parmi les immigrés. Alors, on les compte parmi les Français, ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu, pendant des années et des années, entretenir le mythe qu'il y avait moins de 100 000 personnes qui entraient en France chaque année, que parfois même on descendait en dessous, alors que la réalité de l'immigration, celle que nous avons réussi à établir en nous fondant sur les travaux de Maxime Tandonnet, c'est qu'il y a depuis longtemps plus de 300 000 personnes chaque année qui rentrent, et même actuellement on peut estimer à plus de 400 000 le nombre d'immigrés annuels en France.
On nous envoie cette question, M. Reichmann, concernant Serge de Bekech. Est-ce que vous saviez qu'il n'approuvait pas le fait de la privatisation, c'est ça, de l'assurance maladie, car il pense qu'il risque d'accroître les inégalités entre les hauts revenus et les gens à basse ressources, c'est ça?
Oui, ben ça, vous savez, ce que dit M. Tekken, s'il ne dit pas, entre nous soit dit, je ne me laisserai serais pas allé à commenter ces déclarations
non.
qui sont absurdes. Mais sur le fond du problème, qui est quand même intéressant, je vous dirais que c'est exactement le contraire, parce que quand nous avons publié des travaux d'ailleurs tout à fait explicites à cet égard, et nous avons démontré que même pour une personne qui travaille, qui est payée au SMIC, le gain d'une assurance privée est infiniment, déjà très très valable et déjà important. Et nous avons même fait les calculs sur un couple qui dispose du salaire médian français et qui, à la fin de l'année, va arriver à faire une économie de l'ordre de 7000 euros. Donc tout ça, ça a été publié et jamais démenti. Ces chiffres, je les ai publiés soit dans les interviews que j'ai données à la presse, soit dans les articles que j'ai écrits. Donc c'est totalement absurde. C'est le problème, vous savez, la concurrence fait baisser les prix. Ça, c'est un principe général. Alors, il va de soi qu'il faut être très attentif quand on instaure une réforme comme celle-ci, à ce qu'il ne se crée pas de distorsion, parce que vous avez des gens dont l'âge ou la maladie font qu'ils ne sont pas, comme on dit, de bons clients pour l'assurance privée. Mais pour ces gens-là, nous avions prévu un fonds de solidarité qui permettait à chacun d'avoir une assurance. Donc, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les inégalités, c'est l'argument bateau qui consiste à dire ne faites rien, parce sinon il va y avoir des inégalités. Donc, moyennant quoi, tout le monde est dans la misère.
On nous demande encore via les auditeurs m'arrachent des questions dans le fond.
Oui, allons-y.
Alors, pourquoi alors M. Reichmann critique Sarkozy pour mettre en place des mesures pour diminuer l'immigration?
Pourquoi veut-il mettre en place des mesures?
Oui.
Il ne veut pas tellement en mettre, puisque tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est qu'il a parlé d'immigration choisie. Alors évidemment, ça implique que l'immigration choisie ne soit plus une immigration subie, comme il dit, c'est-à-dire qu'on limite éventuellement les entrées de personnes qu'on n'aurait pas choisies, mais il n'a jamais dit comment ni combien. Et tout ça, ce sont des postures, vous comprenez? Or, la seule attitude qui serait honnête vis-à-vis des citoyens, ce serait de dire, nous accepterons chaque année tant d'immigrés et bénéficiant de telle ou telle qualification. Bon, là, ce serait une position qui serait claire, on pourrait l'approuver, la combattre, etc. Mais le baratin qui consiste à dire immigration choisie, ça n'a strictement aucun sens, ça n'est destiné qu'à essayer d'avoir une posture de droite et pour se faire élire, et après, la politique du chien crevé au fil de l'eau continuera.
Nous avons un auditeur, une semaine, la semaine passée, lorsqu'on était supposé d'avoir entrevue, mais que ça a été remis pour cause de maladie de notre côté. Un certain monsieur Christian Oguez, qui est ouvrier, qui a 54 ans, et il participe à toutes les manifestations, monsieur Reichmann, de la Révolution Bleue, bien sûr, organisée par vous. Alors, son souhait, dans le fond, et que je vous demande, dans le fond, à l'occasion d'une émission hebdomadaire que l'on fait ensemble, ce que vous pensez du nouveau parti politique Alternative Libérale. Alternative Libérale qui est issue de l'association Liberté Chérie. Je ne sais pas si vous connaissez. Il nous remercie pour aussi le ton de l'émission, etc. Merci pour la station de Radio Rockick. Mais bon, allons-y sur votre réponse. Est-ce que vous connaissez?
Oui, je sais qui c'est. Alternative Libérale est une formation politique qui est née d'un mouvement associatif appelé Liberté Chérie, qui a connu une certaine notoriété en organisant, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans de cela, une manifestation à laquelle, d'ailleurs, beaucoup de gens de l'UMP avaient participé, ce qui diminuait quand même un tout petit peu le mérite propre d'Alternative Libérale. Mais c'était une bonne initiative, en manifestant contre les grèves abusives des services publics. Alors, ils ont pensé que, à partir de là, leur heure de gloire pouvait se prolonger, et ils ont voulu, ce qui est leur droit le plus absolu, se mêler à la vie politique en créant un parti politique qui a présenté son président à l'élection présidentielle, mais il n'a pas obtenu le nombre de signatures requises, et il s'est immédiatement rallié à François Bayrou. Donc, ça a fait évidemment peu plaisir à un certain nombre de ses soutiens qui ne voyez pas pourquoi il fallait se rallier à quelqu'un qui n'est quand même pas un libéral. Mais voilà, donc, ce sont des jeunes gens qui, manifestement, ont une certaine ambition, ce qui n'est pas critiquable, dont la cohérence reste quand même un tout petit peu à vérifier. et surtout qui ont une grande différence par rapport à nous. Eux, ce sont des libéraux libertaires. Et nous, nous sommes des libéraux conservateurs. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que la libération des mœurs doive aller aussi loin qu'elle est allée, et nous ne pensons pas non plus qu'une société peut vivre sans règles, ou en tout cas sans règles relativement cohérentes. Et donc, voilà, il y a une différence importante. Et ce qui est très ennuyeux en France, c'est que le libéralisme a souvent été incarné par des gens qui étaient libertaires. Et la société française n'est pas libertaire. Et elle a raison de ne pas l'être, parce que vu les attaques qu'elle subit de la part de tous les mouvements qui cherchent à dissoudre tout ce qui a été le ciment de la vie nationale et le ciment de la société, eh bien, ça n'est pas de libertaires qu'on a besoin. Certes, on a besoin de gens qui sont épris de liberté, et je suis moi-même de ceux-là, mais le libertarisme qui consiste à accepter le mariage homosexuel, l'adoption homosexuelle et toute une série d'autres comportements qui, pour nous, ne sont pas des comportements qu'il faut y admettre. On a rien contre les homosexuels, mais pourquoi veulent-ils à tout prix se marier? Surtout à un moment où la plupart des gens ne se marient même pas. Enfin, c'est quand même assez extravagant. Bref, le libertarisme, c'est une position respectable, oui, certes, mais sur le plan politique, elle me paraît vouée à un échec complet.
C'est un peu le même principe que nous avons subi dernièrement. Et ben, oui. C'est comme s'approprier les valeurs hétérosexuelles. Vous êtes d'accord, oui, avec moi? C'est un peu ça. Tandis que nous ici, probablement que vous avez, ou peut-être pas du tout, vous avez entendu parler de cette histoire de musulmans qui se sont appropriés les traditions québécoises, c'est-à-dire la cabane à sucre. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes
Non, je n'ai pas entendu parler de cela, non.
Est-ce que vous êtes déjà allé dans une
cabane? Qu'est-ce que la cabane à sucre?
Bon, alors voilà. Aucun problème. Une cabane à sucre, c'est un produit typique québécois, et on y extrait le jus, on y extrait le sirop des arbres nommés érables. Et oui, avec ça, on peut y faire beaucoup de mets. Mais je vous avouerai que la majeure partie de la nourriture qu'on peut retrouver dans une cabane à sucre, c'est du porc.
Du quoi? Du pain?
Du porc.
Ah, du porc! Ah, oui, d'accord.
Du porc,
oui,
et voilà.
Du porc caramélisé, donc.
Voilà. Et par exemple, une tourtière, c'est fait à partir de porc. On mange, il y a des saucisses, mais c'est fait avec du porc. Il y a des, oui, il y a des oreilles de Christ. C'est fait avec du porc, ça aussi, c'est du bacon séché. Et bref, pratiquement tous les mets à l'intérieur d'une cabane à sucre, ben, il y a du porc. Et si, par exemple, on y ôte le porc, ben, il n'y a plus rien. On mange que des
œufs. Ah oui, alors, et donc les musulmans, que demandent-ils quand ils font?
Ben, ils ont demandé, c'est simple, qu'on retire le porc dans une.
Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, oui, oui. Donc, ouais, ils veulent c'est que qu'on puisse enfin ils ne veulent pas qu'on puisse manger du porc puisque ça leur est interdit. Mais en quoi le fait que vous mangez du porc ça gêne les musulmans il suffit qu'ils n'en mangent pas eux-mêmes?
Je faisais un parallèle entre les homosexuels qui veulent s'approprier les traditions hétérosexuelles et les musulmans, oui, qui peut-être vous allez trouver le parallèle,
oui,
boiteux.
Ils veulent s'approprier le mariage alors que même jusqu'à présent ne se sont pas mis dans une position telle que le mariage tel qu'on le connaît puisse s'appliquer à eux. Mais effectivement, bon, tout ceci est un peu ridicule, mais ça, oui, ça fait partie, vous savez, de ces bravades permanentes qu'une partie de la société cherche à imposer aux autres. C'est comme lorsque la Gay Pride défile dans les rues, il n'y a pas qu'à Paris, il y en a à Berlin qui ont une énorme affluence et dans d'autres villes. Mais Gay Pride, ça veut dire fierté d'être homosexuel. Bon, il n'y a pas de honte à cela, mais pourquoi vouloir faire absolument une Gay Pride? Pourquoi ne pas vouloir faire non plus à ce moment-là la fierté d'être alsacien, breton ou autre, la fierté de savoir marcher sur les mains, enfin n'importe quoi, c'est absurde. Donc et tout ceci c'est en fait de la provocation permanente, et nos sociétés actuellement, nos sociétés occidentales sont malades de la provocation permanente qu'elles subissent. Alors il ne faut pas y céder à cette provocation. Je veux dire par là que il voudrait nous rendre furieux, il n'y a pas de quoi l'être, mais il suffit, je dirais, de ramener ces choses-là à leur véritable proportion, et surtout de ne pas leur donner une importance qu'elles n'ont pas. Bon, je pense que... D'ailleurs, vous savez que d'une façon générale, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'anime un groupe qui considère qu'on devrait interdire les manifestations dans le centre des villes. Parce que c'est un désagrément, pour ne pas dire plus, permanent. Je suis pour le droit de manifester, pour le droit de se réunir, mais je pense qu'il devrait y avoir des lieux où on puisse manifester, par exemple des stades ou de grands espaces de pelouse ou autres, où d'abord il serait facile aux manifestants de se faire compter, puisqu'il y a toujours des grandes discussions pour savoir s'il y avait 2000 manifestants ou 5000, selon les organisateurs, alors que là, bien, ce serait très facile, il y aurait des entrées, il suffirait de le savoir. Ils manifesteraient avec plus ou moins de puissance, ils auraient fait ce qu'ils avaient à faire et ils n'auraient dérangé personne. Mais le fait d'empoisonner la vie des autres est devenu un véritable, en France en tout cas, un véritable commandement. Si je ne vous gâche pas la vie, je vais me sentir totalement irresponsable. Voilà, c'est dramatique et c'est pour ça que je suis absolument contre les manifestations permanentes. Et vous savez, à Paris, nous avons tous les jours, je dis bien tous les jours, des manifestations. Alors, ça mobilise des forces de sécurité, ça empêche les gens de circuler et d'aller travailler. Enfin, c'est l'empoisonnement permanent. Donc, tout ceci me paraît faire partie du même syndrome de relâchement général de la société. Elle a oublié que... il faut d'une part des règles, d'autre part du travail, et tout ceci maintenant, eh bien, c'est le grand dérèglement du monde occidental.
Monsieur Reichmann, j'aimerais encore tirer quelques mots de votre excellent discours concernant Charlie Hebdo, le jugement qui a été rendu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, je pense que c'est un très bon jugement. D'abord, c'est un jugement intelligent.
Oui.
J'en ai lu des extraits dans la presse.
Exact.
La formation du tribunal était présidée par M. Mingendie, qui est le président du tribunal de Paris. Donc, c'était une affaire importante qu'il a présidée lui-même. Et vraiment, les attendus sont particulièrement bienvenus. Alors, il considère qu'effectivement, enfin, la plupart de ces dessins ne comportent aucune atteinte aux musulmans, que certains autres, en particulier celui qui représentait le prophète avec en guise de turban ou dans le turban une bombe, était effectivement de nature, parce qu'il s'agissait du prophète, à jeter un certain discrédit sur les musulmans, mais le tribunal apporte une correction immédiate en indiquant que, en fait, c'est parce qu'un certain nombre de gens qui pratiquent le terrorisme se réclament de l'islam qu'il est légitime, finalement, de leur opposer ce type de caricature, laquelle d'ailleurs n'est qu'une caricature.
Voilà.
Voilà. Et donc, je pense que c'est un jugement qui est tout à fait équilibré et satisfaisant. D'abord, la relaxe de Charlie Hebdo est une bonne chose.
Mais oui.
Un journal ne peut quand même pas être accusé parce qu'il fait des caricatures. Et d'autre part, je crois même que les parties civiles sont assez divisées. Une partie d'entre elles, finalement, se dit relativement satisfaite dans la mesure où on a reconnu que leur émotion pouvait avoir un caractère légitime, mais les plus extrémistes d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu M. Sarkozy, l'Union des organisations islamiques de France, entend faire appel. Et c'est là qu'on voit la duplicité de M. Sarkozy. Voilà un homme qui vous explique que il faut une immigration choisie, qui en même temps reconnaît et installe à la tête de l'islam de France les plus extrémistes des musulmans. Enfin bref, ça n'est pas de lui qu'il faut attendre dans ce domaine, ni probablement dans d'autres le salut, mais je crois qu'on peut saluer en revanche la justice française, qui en général est très critiquable, mais à qui il arrive parfois de rendre des jugements intelligents et finalement apaisants pour tout le monde.
On nous pose la question, deux petites questions en terminant. À quand la prochaine manifestation de la Révolution Bleue, M. Reichmann?
Alors nous attendons un tout petit peu parce que nous en avons fait une il n'y a pas très longtemps. Nous avons protesté contre les politiciens en faisant appel à la dérision qui était pauvre et qui avait besoin de soutien. Mais la période électorale est une période dans laquelle, sauf événement ou incident, nous n'allons pas faire beaucoup de manifestations parce que ça n'est pas très souhaitable, si vous voulez. Il faut que les Français puissent maintenant réfléchir, écouter, et sans qu'il y ait d'événements extérieurs et de manifestations qui pourraient prendre un tour un petit peu artificiel. En revanche, s'il y a des événements quelconques se déroulaient qui exigeaient que la Révolution Bleue manifeste, nous appellerions immédiatement une manifestation. Mais je vous rappelle que nous continuons nos cafés politiques. Le prochain aura lieu d'ailleurs la semaine prochaine à Paris et dans d'autres villes également. Et ces cafés politiques, c'est justement de là que naissent les manifestations, parce que c'est là que nous réunissons des gens qui viennent s'exprimer, écouter, et que la bonne parole ensuite peut être semée.
Êtes-vous toujours pour la bombe atomique iranienne? Non, ce serait méchant de nous faire répondre à ça.
Oui, écoutez, je vois que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Hein. Non, je ne suis absolument pas pour la bombe atomique iranienne, mais, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand on sait l'usage
que
M. Ahmadinejad pense en faire, puisqu'il veut rayer Israël de la carte et un certain nombre d'autres pays également. Et les fusées qu'il détient sont de nature, semble-t-il, à atteindre des pays comme la France et d'autres. Donc je pense que c'est un danger, un véritable danger, et même un très grand danger. Mais les Occidentaux ont une attitude quand même assez fluctuante dans cette affaire. Bon, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, parce qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des contacts. Et puis il y a également, vous avez vu qu'il y a un général iranien qui a fait défection, et tout ceci
il y avait
une intense activité secrète.
C'est ça, je pense aussi que Le Pen avait déjà dit ça.
Ah non, lui, il a dit, non, alors là, il a dit quelque chose avec lequel je suis en désaccord total. il a dit que
oui.
Il n'y avait pas de raison que l'Iran, qui est un État indépendant, n'ait pas la bombe, puisque d'autres l'ont. Alors effectivement, si on raisonne uniquement en termes théoriques, pourquoi pas.
Oui.
Le problème ne se pose pas dans ces termes. Parce que c'est effectivement le danger que représente la bombe atomique entre les mains d'un État totalement irresponsable, en tout cas d'un chef d'État irresponsable. Enfin, il n'est pas d'ailleurs chef d'État, il est chef de gouvernement.
Oui.
Mais, et d'autre part, il y a aussi une affaire qui est très intéressante en ce moment, c'est l'affaire Total. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais M. de Margerie, qui est le nouveau directeur général de Total, a été mis en examen pour des faits de corruption.
Des faits de corruption, oui, c'est vrai, j'ai suivi le dossier, M.
Voilà. Et alors, c'est très intéressant parce que, d'abord, les lois sont quand même assez étranges parce que, comme vous le savez, jamais les grandes firmes pétrolières n'ont corrompu personne. Il n'y a que Total qui s'est fait prendre la main dans le sac. Et donc, admettons, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, par un mécanisme qui semble avoir été bien démonté et démontré par la justice, Total versait à des bureaux d'études ou à des sociétés intermédiaires des fonds qui allaient dans la poche du fils de M. Rafsanjani, qui est l'ancien président iranien, et qui est devenu un des hommes les plus riches de l'Iran, c'est sûr, et même de la planète, semble-t-il. Et donc, ce régime des mollahs purs et durs est en fait un régime dont la corruption est absolument...
Mais monsieur Reichmann, s'il vous plaît, là, ça se peut pas, c'est que ça existe dans les films d'action, mais...
Ah bon, ça choque votre sens moral, je sens.
Monsieur
Reichmann, moi, j'ai fait un rêve, je me suis laissé emporter par la lecture des bandes dessinées.
Ah oui, c'est exact. Oh, non, ça fait longtemps.
C'est une affaire très intéressante, parce que... voyez-vous, la vertu, c'est quand même extraordinaire. On fait des lois, les politiciens font des lois, et on explique qu'il y a eu un accord international qui a dit que la corruption était désormais interdite. Bon, je veux bien qu'elle soit interdite, et je trouve même que ce serait une excellente chose, mais de là à arriver à faire respecter, donc les malheureux, c'est ceux qui se font prendre. C'est-à-dire que Total, qui a des investissements très importants en Iran, et qui fonde beaucoup sa stratégie sur ces investissements, risque de se trouver en grande difficulté par rapport à ses concurrents internationaux, lesquels pratiquent très certainement la corruption exactement dans les mêmes conditions, et qui, eux, ne se sont pas fait vendre. Donc, tout ceci, me semble-t-il, est véritablement une hypocrisie générale, et donc, je vois mal comment ce genre de choses-là peut ensuite être éradiqué. Regardez dans l'affaire des frégates de Taïwan, c'était pareil. Bon, la corruption était interdite aussi, les rétrocommissions étaient interdites par...
On nous dit que ça c'est...
L'État de Taïwan, et il y a eu des commissions de plusieurs milliards.
Les événements se sont produits exactement en 1998 et 2003 concernant Total.
Oui.
C'est ça.
Et il se trouve que l'actuel directeur général, M. de Margerie, est mis en cause, est mis en examen, même en raison du fait qu'il était le directeur de ce secteur. C'est lui qui dirigeait, je crois, le secteur Orient, Moyen-Orient, et donc c'est à ce titre qu'il est mis en examen, mais ça va évidemment gêner son action, puisque il est même soumis à un certain contrôle judiciaire qui l'empêche de, bon, ce qui est normal. normal de voir les personnes mises en cause également dans cette affaire, mais il semble qu'il ne soit pas interdit de se déplacer ailleurs. Alors, soit dit en passant, s'il veut vraiment rencontrer des gens qu'il ne doit pas rencontrer, il suffit qu'il leur donne rendez-vous à l'autre bout de la planète. Je vois mal les juges aller vérifier s'ils les rencontrent ou pas. Enfin, tout ceci me fait quand même penser à un peu de gesticulation.
Monsieur Reichmann, merci pour cette interview. C'est toujours un plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine.
On se reparle la semaine prochaine, c'est entendu.
Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Au revoir, à bientôt et bonne fin de journée.
Même chose.
Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Claude Reichmann que vous avez entendu. On s'arrête un petit instant. On bat des derrière, rockkick.com, le www.rockkick.com, votre station de radio numéro 1. La planète rockkick.com se parle, live@rockkick.com. C'est comme ça que ça fonctionne, via MSN ou courriel. Allez-y, c'est le temps. Faites aller vos petits doigts si vous avez des questions. Ou enfin, envoyez votre opinion via le live@rockkick.com. Merci d'être là de 8h à midi, de 13h à 17h. Wake up le show avec Ismaël Trépanier, c'est-à-dire moi, votre pulisseur maréchal, et Christian Dallaire. Oui, le gars des sports, le chialeux. Et Miss Diamond, Cocky Girl, Harry Spectacle, ça marche de même, on va des culs.